On reprend donc l'introïte. Omnia quefecisti nobis domine in vero judicio tuo, in vero judicio fecisti, quia piccavimus tibi, et mandatis tuis non obevimus, sed da gloria nomini tuo, et fac nobis cum secundo multitudinem misericordiae tue. Tout ce que vous avez fait à notre rencontre, Seigneur, c'est par un jugement très juste que vous l'avez fait, parce que nous avons péché contre vous. Et nous n'avons pas obéi à vos commandements. Mais Seigneur, donnez gloire à votre nom par la multitude de votre miséricorde, donc en exerçant sur nous la multitude de votre miséricorde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Ce passage de l'introïte est le cœur de la prière du prophète Daniel au chapitre 3, versets 26 et suivants. Qui est le prophète Daniel? Avant de parler de sa prière, le prophète Daniel est alors un tout jeune homme qui était de famille noble en Israël et qui a été parmi les premières vagues de déportation à Babylone par le roi Nabucodonosor. Qu'est-ce qu'il faisait? Pour vous dire que les méthodes modernes sont vieilles comme le monde, il avait choisi toute une série de jeunes nobles et il voulait les former à la manière des Babyloniens, leur apprendre leur langue, leur apprendre leurs mœurs et après les remettre comme ses envoyés en Israël pour dominer Israël par des propres enfants issus de leur race, issus de leur propre peuple. Donc vous voyez, les méthodes sont pas neuves. Et une des choses qu'on leur apprenait aussi, c'était d'adorer les faux dieux babyloniens. C'est aussi lui, il était qu'un jeune homme, la première fois qu'il a eu l'inspiration prophétique, si vous vous souvenez, c'est dans une des lectures du temps du carême, c'est un samedi, où on parle de la chaste Suzanne, qui est aussi déportée à Babylone, et il y a deux vieillards qui servent de juges pour ceux qui sont les Israélites qui sont déportés à Babylone, et puis ils sont là, ils jugent dans le jardin de l'époux de Suzanne. Et puis, comme elle croit que tout le monde est sorti et que c'est les pays chauds, donc elle veut faire une ablution, et eux se cachent, n'est-ce pas, pour la contempler, etc. Et puis après, ça ne leur suffit pas, ils vont vers elle pour la faire consentir, et puis ensuite il lui dit, alors évidemment elle ne veut pas, et alors il lui dit, si tu n'acceptes pas, tu sais qu'on est les deux juges, on va dire qu'il y a un jeune homme qui s'est échappé. Et alors elle le hurle, du coup, c'est la meilleure méthode pour les femmes pour se défendre. Quand c'est comme ça, donc elle le hurle, les serviteurs arrivent, et alors les deux vieillards corrompus, qui servent de juges jusque-là, disent... Alors, il y en a un qui vite allait ouvrir la porte, puisque c'était fermé à clé jusque-là, sinon elle n'aurait pas fait son ablution, évidemment. Et ils disent, on l'a pris en flagrant délit avec un jeune homme, et il est parti par cette porte-là. Donc, autrement dit, retourne l'accusation contre elle. Et comme ils sont des vieillards, et puis que c'était eux qui étaient les juges du peuple, tout le monde est consterné, surtout le mari de Suzanne, les serviteurs qui n'ont jamais entendu le moindre soupçon contre la chasteté de Suzanne. Et alors, L'Écriture nous dit, c'est dans le livre de Daniel que c'est raconté tout ça, l'Écriture nous dit qu'elle cria devant Dieu. Bon, tout à l'heure, elle a crié extérieurement, les serviteurs. Là, elle a hurlé devant Dieu, mais d'un cri intérieur, nous disent les pères. Mon Dieu, je suis perdu, ces vieux vieillards corrompus m'accusent de ce qu'ils voulaient faire eux-mêmes. Il n'y a que vous qui pouvez me sauver. Donc c'est un cri intérieur. Et là, l'Esprit de Dieu vient sur un jeune homme qui s'appelle Daniel et qui est le futur prophète Daniel. C'est la première fois que l'Esprit prophétique vient sur lui. Et il dit, au nom du Dieu très haut, je ne participe pas à votre condamnation à mort de cette femme. Oh, alors, tout le monde s'arrête, qu'est-ce qu'il raconte tout ça? Oui, je vous le dis, c'est ces deux vieillards qui sont coupables, etc. Alors, comme tout le monde était retourné ou quoi, parce qu'on n'arrivait pas à croire que la chaste Suzanne ait pu faire une chose pareille, ils sont étonnés. Et puis, ils sentent que le jeune homme est inspiré, comment un jeune homme parle avec une telle force et puis une telle clarté d'esprit. Alors, il dit... Revenez au jardin et moi je vais juger. Et surtout, il dit, dépêchez-vous, séparez-les tous les deux l'un de l'autre. Comme ça, ils n'ont pas le temps de se mettre d'accord. Et il fait paraître le premier, comme il est, c'est l'Esprit Saint qui parle à travers sa bouche. Alors il dit, espèce de vieillard corrompu, etc. Tu faisais ça avec les filles d'Israël, tout ça, puis par peur, parce que les menaces que tu lui faisais, elles consentaient. Les exemples de corruption, on en a encore entendu parler il n'y a pas longtemps, là, à des hauts niveaux, n'est-ce pas? Mais c'était déjà le cas, il abusait donc de son autorité et de sa fonction pour... corrompu, etc. Ah, tu prétends que tu as vu un jeune homme, etc. Ça s'est passé sous quel arbre? Alors il dit un arbre. Espèce de menteur, etc. Tu vas voir le jugement de Dieu est sur toi, etc. Faites-le sortir, faites rentrer l'autre. Alors il fait les mêmes invectives contre l'autre. Donc c'est encore l'Esprit de Dieu qui parle à travers lui. Sous quel arbre ça s'est passé? Toc, il dit un autre arbre. Complètement, un endroit complètement différent. Voyez que ce sont des menteurs. Ils ont inventé ça. Ils ont accusé, ils ont voulu faire tomber Suzanne, et comme elle a hurlé qu'elle s'est défendue, parce que pourquoi elle aurait hurlé autrement, hein? Et comme elle s'est défendue, eh bien, ils l'ont accusée par une calomnie, etc. Et alors le peuple, du coup, au lieu d'amener à condamnation, à mort, je suppose par la lapidation, la chasse de Suzanne, ils prennent les deux vieillards, et blam, 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 et l'Écriture nous dit « In die illa » et en ce jour-là, le sang juste fut sauvé. Bon, Dieu permet des fois que le sang juste soit versé, etc. Et des fois, ça sert de réparation, d'hostie réparatoire, comme notre Seigneur lui-même, comme Sainte Jeanne d'Arc en France, qui a été comme une hostie réparatoire. Eh bien, là, voilà le prophète Daniel. Il est donc à Babylone. Il se rend compte que son peuple est dans un état de servitude et il craint même parce qu'il y a les idoles partout, etc. Et alors il supplie Dieu, comme on l'a vu, mais ce qu'on a entendu dans l'intro, c'est le milieu de la prière. Donc on va reprendre la prière en la remettant un petit peu dans son contexte, maintenant qu'on sait mieux qui est Daniel. Béni êtes-vous, Seigneur, Dieu de nos pères. C'est lui aussi, Daniel, qui va comprendre que les 70 ans de la captivité à Babylone vont être finis, et donc il va supplier Dieu pour qu'il puisse retourner enfin en Israël, en être délivré de la captivité. C'est lui aussi qui va avoir l'inspiration, qui va annoncer que dans tant et tant et tant de semaines d'années, viendra le Messie dans un temple qui viendra juste d'être restauré, ce qui a été le cas, et le nombre d'années donné par Daniel correspond exactement à l'arrivée de notre Seigneur. Donc là, il prie, il supplie Dieu, parce qu'il a l'intuition que ça va être la fin de la déportation, hein, et donc il l'en supplie. « Béni êtes-vous, Seigneur, Dieu de nos pères, et louable et glorieux est votre nom dans les siècles. » Ça ressemble un petit peu à la prière des enfants dans la fournaise, les trois enfants dans la fournaise, puisqu'ils n'avaient pas voulu adorer les faux dieux. Le roi Nabucodonosor les avait mis dans le feu, et ils avaient été captifs en même temps que Daniel, et Daniel rapporte leur louange que l'Église a fait sienne, puisque on les chante, nous, tous les dimanches à l'aude. C'est une des plus belles louanges qui soit, mais Domini, Domino, etc. C'est les trois enfants dans la fournaise, et c'est aussi rapporté dans le livre de Daniel. Donc, louable et glorieux est votre nom dans les siècles, parce que vous êtes juste dans tout ce que vous nous avez fait. Tiens, on reconnaît les paroles de l'introïte, même si ça va être répété plus loin. Parce que vous êtes juste dans tout ce que vous nous avez fait. Et toutes vos œuvres sont vraies, et vos voies sont droites, et tous vos jugements sont vrais. Si on cherche à s'excuser, souvent, on commence à accuser Dieu. C'est l'inverse qu'il faut faire, c'est s'accuser soi, c'est ce que fait le prophète. Il reconnaît d'abord que Dieu est infiniment juste ou quoi, et donc s'il m'arrive quelque chose, ça peut être une épreuve, même notre Seigneur est passé par la passion, pourtant il était innocent. Lui, il a payé pour d'autres. Mais souvent, les épreuves qui nous viennent ou quoi sont des effets de nos péchés antérieurs, etc. Quelquefois, les causes directes. Si vous avez une crise d'estomac, etc., souvent c'est parce que vous avez trop mangé avant, hein. Car, donc il fait d'abord un acte de foi, de louange envers Dieu, d'acte de foi en la justice divine, il s'accuse lui-même, car vous avez exercé des jugements vrais dans tout ce que vous nous avez amené sur nous, et sur la cité sainte de nos pères, puisqu'il y a déjà eu une destruction partielle de Jérusalem et du Temple. Mais là aussi, c'est parce qu'il y avait eu des idoles qui étaient... Un idole qui avait été mis sur le parvis du temple, et on le voit dans le prophète Ézéchiel, les prêtres et les 72 du Sanhédrin, et le grand prêtre, ça ressemble beaucoup à certaines époques, n'est-ce pas? Le grand prêtre et les 72 du Sanhédrin à l'intérieur du temple, l'esprit prophétique dit à Ézéchiel, regarde par le trou, tu vas voir des choses qui se font. Et je les vis, ils étaient en train de faire des cultes idolâtriques à l'intérieur du temple. Puis, il continue un peu plus loin, Ézéchiel, retourne-toi, regarde, tu vas voir encore quelque chose de pire. Et je vis sur les parois, il y avait toutes sortes d'animaux, etc. Et ces animaux-là, et donc c'est des démons et des fausses divinités, qu'ils adoraient à l'intérieur du temple. Comment voulez-vous que Dieu ne châtie pas après ? Parce que, pourquoi il avait eu cette vision? Parce qu'il était lui aussi déporté, Ézéchiel. Il dit, mais mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on vous a fait, nous, pour être déportés comme ça? Toi, tu sais pas, c'est vrai. Parce que ça s'est passé de façon occulte dans le temple, etc. Mais regarde ce qui s'est... Alors, il est porté en esprit à Jérusalem et il voit ce qui s'est passé avant la déportation. Ça, c'est Ézéchiel. Car vous avez exercé des jugements vrais dans tout ce que... Vous avez amené sur nous et sur la cité sainte de nos pères. On comprend mieux pourquoi maintenant. Parce que c'est conformément à la vérité et à la justice que vous avez amené tout cela à cause de nos péchés. Car nous avons péché. Et nous avons commis l'iniquité en nous écartant et retirant de vous. Donc on a brisé l'alliance. L'Ancien Testament, ça veut dire quoi? C'est l'Ancienne Alliance. Donc dans la mesure où on s'écarte de Dieu, on brise l'Alliance. Et quand un peuple brise l'Alliance avec Dieu, les malheurs arrivent. Et quelquefois les malheurs arrivent vite et aident le peuple à se reprendre et à renouer l'Alliance. Et si on rechute et si on ne se reprend pas, alors les châtiments arrivent de plus en plus. Et qu'est-ce qu'on a fait nous? On n'a pas brisé l'alliance quand on a prétendu faire la séparation de l'État avec l'Église. Qu'est-ce que ça veut dire faire la séparation de l'État avec l'Église? Ça veut dire apostasiés socialement et politiquement. Vous pouvez croire qu'il y a Dieu et l'honorer chez vous en privé, mais nous, en tant qu'État, on n'a aucun... On rend compte à personne, c'est nous qu'on fait les lois, on paye des gens pour baratiner le peuple, on fait soi-disant voter les gens après. Et quand on veut leur faire voter l'avortement, on les fait voter une fois, deux fois, trois fois, dix fois. En Irlande, ils sont à je ne sais pas combien de fois. À chaque fois, le peuple repousse, repousse, repousse. Quand ça passe au bout d'une fois ou deux dans un pays, en France malheureusement et, ou ailleurs, alors là, on ne revient jamais sur les votations du peuple. Mais quand ça va pas dans le sens de ceux qui dirigent occultement et qui veulent faire tomber la nation de plus en plus bas, alors là, on le refait 10 fois, 20 fois, jusque quand on obtienne la majorité. Et puis, en attendant, on fait des campagnes d'information, de désinformation, de tout ce qu'on veut pour obtenir ça. Alors déjà, là, 1905, séparation, c'est pas la séparation de l'Église et de l'État, comme on dit. Non, c'est la séparation de l'État d'avec l'Église. Ça veut dire c'est l'apostasie sociale et politique. Et alors déjà, ça, c'est très grave. Et elle est aggravée après par quelqu'un qui pourtant est né dans l'Église, a été baptisé, un certain Charles, et qui, avec la cinquième constitution, a fait marquer dans la constitution, c'est une république laïque. Ça veut dire sans Dieu. C'est un catholique qui a fait ça. Ben oui. Et ils ont demandé, ils ont eu l'aval des évêques qui se sont tués, qui n'ont rien dit, et qui ont fait voter ça. C'est un peuple catholique qui a voté ça. Ben il n'était plus beaucoup, hein. Ou alors ils ont été trompés par leur chef, ils ne se sont pas rendus compte de ce qu'on leur faisait faire. Donc on a fait un degré de plus. Alors attention, hein. On est laïque, ça veut dire quoi? Avant ils disaient autrement, mais on est neutre, on est soi-disant neutre. Qu'est-ce que c'est que cette neutralité-là? C'est une manière de nous neutraliser, tout simplement. Qu'est-ce que c'est quand je neutralise quelqu'un? Je l'empêche d'agir. Qu'est-ce qu'a fait la France? C'est vive le Christ qui aime les Francs. Bon, c'est l'alliance de Clovis avec les évêques, avec l'Église, avec la vraie foi, et c'est ça qui a uni les Gallo-Romains, les Francs, les autres minorités barbares, etc. Ça a fait une unité qui a fait un pays unique. C'était unique dans toute l'Europe. C'est pour ça que c'est la fille aînée de l'Église. C'est ça qui a fait la France. Avant ça, il n'y a pas de France. Après, on veut nous faire croire que la France est née en 1789. Là, d'abord, 1789, c'est purement arbitraire comme date, mais c'est là que continue la révolte. Parce que malheureusement, dans le gallicanisme, il y a déjà des Rolands qui préparent ça, en s'écartant de la Sainte Église romaine et de la papauté. Pas en s'écartant ouvertement encore, mais en essayant de la tenir à distance. Attention, il faut le plachette royal pour que les encycliques des papes soient publiées en France, etc. Enfin bref, donc on réclame déjà de présenter les évêques pour que le pape les nomme, alors que normalement ça regarde l'Église et non pas le pouvoir civil, hein, ce qui est de la nomination des évêques, etc. Donc il y avait déjà des empiétements. Ça ne vient pas d'un coup, hein. Les châtiments sont proportionnés aux fautes qui sont faites. Et il y a même une autre grande vérité. C'est que au niveau des individus, il y a les châtiments de cette vie, mais il y a les châtiments, et les châtiments, pardon, et les récompenses aussi, et les bénédictions de cette vie. Et il y a les récompenses, les bénédictions et les châtiments de l'autre vie. Mais au ciel, déjà dans l'Église, c'est un petit peu comme ça, c'est ce que dit saint Paul, il n'y a plus ni juif, ni barbare, ni païen. Mais au ciel, c'est encore plus. Au ciel, il n'y a plus de français, d'italien, d'anglais, etc. Il y a des chrétiens, et puis c'est tout. des gens unis et des enfants adoptifs de Dieu, et c'est tout. Donc il n'y a plus de nation en tant que telle au ciel. Ça veut dire quoi, ça? Dieu est infiniment juste. Le Saint Curé d'Ars disait, voilà, il y a un homme, il fait quand même du bien, il se donne du mal. Ah, c'est pour gagner de l'argent, c'est pour... mais enfin, il travaille, etc. Et puis alors, par contre, il pratique pas, il est dur avec ses serviteurs, etc. Et on dirait que tout lui réussit. Alors le Saint-Curé d'Ars dit, mauvaise marque, oh là là. Si, avec la part de bien qu'il fait, mais aussi la part de mal, et surtout son infidélité, il a ses bénédictions maintenant, ça veut dire qu'il a ses récompenses maintenant, parce qu'il ne les aura pas après. Bon, ça c'est pour les individus, mais pour les peuples, c'est pas comme ça. Pour les peuples, Dieu les récompense, il peut ne les récompenser qu'ici-bas, puisqu'il n'y aura plus de peuple après. Et donc, les bénédictions et les peuples... Pourquoi la France est devenue la première puissance mondiale? C'est quand même étonnant. C'est quand même pas... pendant des siècles. Parce qu'elle était la fille aînée de l'Église, c'est tout. Elle ne l'a pas recherchée spécialement pour ça, hein. Mais ça a été la conséquence. Pourquoi maintenant on est descendu si bas? Parce qu'on s'est coupé de Dieu. C'est tout. Et alors, pour les autres peuples, quelquefois, le bon Dieu se sert aussi, il permet que des peuples soient, même des peuples qui sont hostiles. Il le faisait dans l'Ancien Testament, on voit bien avec le roi de Babylone. Vous n'allez pas me dire que Dieu a permis la force de Babylone contre Israël, parce que Babylone, il faisait des biens. Alors, il l'a permis pour qu'il serve de fléau de Dieu, c'est ce que disait Attila. « Je suis comme le fléau de Dieu », disait Attila. Et c'était vrai. Et le jour où il a trouvé un pontife comme Saint Léon, qui vient devant lui avec une foi extraordinaire, en procession, sans armes, sans rien, il vient devant lui avec des prières, en se confiant à Dieu. Et il lui dit... Alors l'autre, avec respect, il le reçoit, etc. Et ceux qui entourent Attila, ils disent, mais qu'est-ce qui lui arrive? Mais on ne l'a jamais vu comme ça, notre chef. Il a massacré des prêtres, des religieux, des religieuses, de n'importe qui, des nobles, des rois, des tout, il a tout massacré. Qu'est-ce qui lui arrive, là? Et alors, je vous demande de vous retirer, etc. Alors Attila fait demi-tour. Mais... du coup, ces lieutenants, ils sentent qu'il se passe quelque chose, mais ils ne comprennent pas quoi. Alors ils lui disent après, qu'est-ce qui vous est arrivé? Parce qu'il était tellement craint, comme tous les tyrans, comme Staline ou je ne sais pas quoi, il était obligé de s'enfermer dans une chambre fermée à double tour ou quoi, parce qu'il avait peur d'être assassiné par ceux qui l'entouraient, quoi. Mais là, ils tremblaient tous devant lui. Mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Eh bien, il y en avait un autre qui était au-dessus de lui avec une épée qui me menaçait « Si tu n'obtempères pas ce qu'il te dit, clac, le coup d'épée. » Donc, on pense que c'était Saint-Pierre qui l'a. Et même Napoléon connaissait ça puisqu'il s'est moqué du pape Pie VI en disant « Mais je ne suis pas Attila, moi, pourquoi vous venez pas en procession devant moi ?» Et Napoléon aussi disait... un peu comme Attila, je sens que je suis comme un instrument dans les mains de Dieu, et que le jour où Dieu n'aura plus besoin de moi, il me mettra de côté. C'est incroyable, des paroles comme ça. Il y a aussi, entre parenthèses, dans les mémoires de Napoléon, quand il était à Sainte-Hélène, c'est ce qui est dit dans ses mémoires, hein, mais est-ce que c'est sincère? Je n'en sais rien. Mais au moins, ça veut dire qu'il l'avait retrouvé à Sainte-Hélène. Il comprenait que lui, l'Église avait été persécutée, elle était à nouveau libre et florissante. Lui, qui avait été si grand pendant un moment, il n'était plus rien. Qu'est-ce que vous croyez qu'il dit que ça a été le plus beau jour de sa vie? Austerlitz, son couronnement d'empereur, il s'est lui-même couronné, pour dire, moi je reçois rien de personne, c'est moi qui me... Hein. Non, vous savez ce qu'il a mis comme... le plus beau jour de sa vie, ma première communion. incroyable. Il faut quand même pas oublier qu'il était il a été officier à l'école de Brienne, et comme toutes les écoles de l'Ancien Régime, c'était tenu par des religieux. Les Corses sont des tempéraments à moitié, c'est corsaire, hein, c'est à moitié pirate si vous voulez, avec le couteau facile et ce que vous voulez, mais ils ont aussi la foi chevillée au corps. Donc vous voyez ce mélange. Donc quelquefois le bon Dieu permet que des tyrans, etc., qui sont que des instruments dans sa main. Donc ça ne veut pas dire que si un peuple est puissant, c'est forcément parce qu'il a été fidèle, quoi. Mais c'est quand même lié au bien qu'on peut faire ou à l'instrument que Dieu veut se servir, parce que les peuples ne peuvent avoir leur récompense et leur châtiment que ici-bas. Et entre parenthèses, la fille aînée qui aime bien châtie bien, deux guerres mondiales, et ça n'a jamais existé avant, hein. Deux guerres mondiales sur notre sol, bon, avec des millions de morts, c'est terrible, hein. C'était il y a 100 ans, quoi. Pour la première, on a été saigné, l'Europe a été saignée. 1,5 million de morts en France, 2,3 millions, je crois, en Allemagne, des centaines de mille en Angleterre, etc. Plus ce qui s'est passé dans les Balkans et en Orient, etc. Enfin, des morts. C'est terrible, ces guerres mondiales. Et ça vient de quoi? Ben, ça a marché avec l'apostasie. Parce que malheureusement, il n'y a pas que la France qui a apostasie. La France a été la fille aînée de l'Église. Et c'était qui la mère? La mère, c'était l'Église romaine. Mais elle est devenue aussi la fille aînée de la Révolution. Et c'était qui la mère? C'était la perfide Albion, avec ses loges maçonniques et tout ça. Et à travers les loges, qu'est-ce qu'on faisait? Eh bien, on prenait des gogos, d'abord de protestants. Ah, vous êtes contre l'Église catholique, vous. Donc vous allez travailler avec nous. Et puis les antichrétiens qui les manipulaient par derrière, eux, attendez mes gars, démolissez-nous l'Église catholique, nous on va vous démolir après, vous les chrétiens. Donc, voilà. Et alors, tous les malheurs nous sont tombés dessus. C'est pas un hasard. Et tant que ce sont des malheurs qui touchent la société civile et tout ça, ça devient grave, quand ça touche même la société familiale. Pourquoi? Ben, les futurs chefs et les futurs prêtres, ils sortent d'où? Ben, des familles, de la société. Si la société est pourrie, d'abord il y en a de moins en moins, donc il y en a quasi plus. Et ce qu'il y a de pire, c'est, on va y venir après, c'est l'infiltration du clergé même, pour que le mal vienne jusque dans le lieu saint. Et alors là, c'est presque irréparable, là. Qui est-ce qui va réparer, là? Car vous avez exercé des jugements vrais dans tout ce que vous avez amené sur nous et sur la cité sainte de nos pères. Et il nous a même à Rome. Rome occupée par les antichrétiens. Incroyable. Ah, c'était la capitale pendant longtemps du paganisme, oui, mais elle est devenue après la mère et magistrat du monde entier par l'installation de Saint-Pierre et de ses successeurs, parce que c'est conformément à la vérité et à la justice que vous avez amené tout cela à cause de nos péchés, car nous avons péché. Et qu'est-ce grave péché nous avons fait? Nous avons commis l'iniquité en nous écartant et nous retirant de vous, en nous séparant de Dieu, en disant nous sommes un état athée. Ça veut dire quoi, laïque? Ça veut dire athée. On fait comme si Dieu n'existait pas, comme s'il n'y avait pas les commandements de Dieu. Je déclare que l'avortement, ce n'est pas un crime. Alors, je jette les petits bouts d'hommes ou les petits bouts de femmes déjà formés, je les jette dans la poubelle. Non, c'est pas des êtres humains, ça, encore. Non, c'est pas un crime. Moi, je peux utiliser mon corps comme je veux. C'est votre corps, ça, qui est jeté à la poubelle? Ah, c'était dans votre corps, madame. Mais c'est votre enfant que vous avez piétiné. Et qu'est-ce qui est dit dans le psaume 105? que nous lisons aussi chaque semaine le samedi. Ils ont immolé leurs propres enfants. Ils ont versé le sang de leurs propres enfants. Ils l'ont versé, ils l'ont offert aux idoles. Comment voulez-vous que Dieu soit châtie pas ça? C'est horrible. Et on lit ça dans les psaumes et on se dit, ouais, mais nous chrétiens, on en fait pareil. On a fait la même chose avec des milliers et des milliers d'enfants massacrés. Après, on nous parle de Shoah ou je sais pas quoi. Et c'est soi-disant quelqu'un qui est de ce peuple-là qui a fait passer la loi chez nous pour massacrer des petits. Mais c'est horrible. C'est une mère qui a fait ça. Massacrer des enfants, les propres enfants de leur, des propres mères. Alors souvent, les pauvres femmes, les pauvres jeunes filles, elles sont poussées par les parents, tu te rends compte la honte qu'on va avoir. Elles sont poussées par celui avec qui elles ont péché. Ah moi, j'en veux pas, tu te débrouilleras toute seule. Alors elles sont prises dans... Et alors après, souvent, elles portent ça toute leur vie. C'est terrible. Quand on en entend certaines... Quand j'ai fait ça, j'étais poussé, je ne m'en rendais pas compte de ce que j'ai fait. C'est une plaie qui me remonte continuellement dans le cœur, etc. Comment une mère ne peut pas réagir autrement? C'est plus une mère autrement. C'est une marade, c'est tout ce qu'on veut, c'est plus une mère. C'est horrible ce que nous vivons. Comment voulez-vous que Dieu ne châtie pas ça? Comment un peuple qui était le flambeau dans les mains de la Sainte Église pour éclairer le monde entier, on a envoyé des missionnaires partout. Comment on peut se laisser entraîner à des horreurs pareilles? Et entre parenthèses, contre-exemple, on a cité le jeune homme pris par l'Esprit de Dieu de Daniel. Il y a tout un mouvement pour la vie, etc. maintenant. Des gens qui luttent pour enlever cette horreur, de cette abomination de la société. Ça a commencé par qui? Par une jeune fille, et je donne son nom, et je l'honore. Elle s'appelle Joanne Andrew, une Américaine, qui a dit « Non, c'est pas possible, on ne peut pas accepter ça !» Une seule qui a fait ça. Après, ses amis, « Ah oui, tu as raison, faut qu'on fasse quelque chose, hein !» Maintenant, c'est un mouvement mondial. Une seule qui a dit « Non, on ne peut pas accepter ça, c'est pas possible, c'est horrible !» Et nous, on le met dans les lois. Alors après, on perd la tête. Comment voulez-vous qu'on ne perde pas la tête quand on dit « Ça, c'est pas un crime, c'est permis, non seulement c'est permis, mais c'est remboursé par la sécurité sociale !» La sécurité sociale, c'est fait pour venir à l'aide de ceux qui sont malades, etc. On s'en sert pour massacrer des enfants. Mais c'est horrible, ça aussi. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, on ne sait plus où on s'arrête. Alors, le péché contre nature que même les animaux ne font pas, on le fait passer dans la loi, on appelle ça mariage. Ah, oh, mais ils ont complètement perdu la giboule, là. Même même Sodome et Gomorre, ils ont pratiqué ce genre de choses, mais ils ont jamais eu l'idée de flanquer ça dans la loi puis d'appeler ça un mariage. On marche sur la tête. Qu'est-ce que c'est que ces inversions diaboliques qui appellent bien le mal et mal le bien? C'est des inversions sataniques. Un individu, mais une société, c'est pareil. Elle ne peut pas ne pas tomber sous le joug du diable. Des anges déçus, mais qui sont des esprits quand même supérieurs à nous. C'est quand même des esprits angéliques déchus, mais si on n'est pas avec le Christ, on tombe sous la férule de Satan, il n'y a rien à faire. Et pourquoi on dit qu'il est notre rédempteur? Il nous a rachetés. Ça veut dire qu'on peut se vendre au diable, mais on ne peut pas s'en sortir tout seul. Sans le rédempteur, on est fichu. Donc si on se coupe du Christ, eh ben on descend, on descend, on descend. Alors vous vous étonnez après que les fausses religions et les vraies religions avancent, qu'ils aient des mosquées partout, etc. Quoi? Le pays des Francs, celui qui a été appelé à l'aide par les chrétientés d'Orient, qui avait été envahi par l'islam, il massacrait les enfants, il violait les religieuses, il prenait les enfants, il les circoncisait sur les autels de force, etc. Il tuait les hommes et les jeunes gens, il prenait les enfants et les femmes comme esclaves, etc. Et comme ventre à produire d'autres enfants pour en faire des janissaires et des soldats. Et hop, pour aller envahir un peu plus loin. Et Constantinople. C'est terrible, Constantinople. Un saint priait. Mon Dieu, permettez pas que Constantinople tombe. C'est le dernier rempart. Après, s'ils ont déjà mis le pied de l'autre côté du pont Euxin, mais ils sont en Europe quasiment. Pourquoi les peuples comme la Pologne, la Hongrie, les Tchécoslovaquies ou quoi réagissent contre les migrants et tout ce qu'on veut? Pourquoi ils réagissent comme ça? Mais parce qu'ils ont eu l'islam, ils ont eu des invasions islamiques pendant des siècles et des siècles. Qu'est-ce qu'ils faisaient les islamiques? Ils arrivaient avec des hordes de centaines, de milliers de soldats. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient un village ou quoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait à Daesh quand ils sont arrivés dans la plaine de Babylone, tiens? C'est encore la plaine de Babylone, là. Ça, comme quoi, c'est le même monde, hein. On n'est pas sur Mars, on est sur la Terre. Dans la plaine de Babylone, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tué les hommes et les jeunes gens. Après, on a parlé des Assidis. Bon, c'est une communauté un peu païenne ou je ne sais pas trop quoi. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont vendu, ils ont mis les femmes en vente et puis et hop, ils les achetaient. Les hommes, ils les ont massacrés. Et les enfants, après, ils en font des janissaires, etc. Des petites filles enlevées par Boko Haram ou quoi, on en retrouve après une petite, on l'envoie sans doute parce qu'on l'a menacée autrement. Elle est remplie d'explosifs, la pauvre petite, quand elle est au milieu de la foule, et hop, ils activent la détonation, et hop, la pauvre petite meurt, et tous les gens qui l'entourent aussi. Mais c'est ça l'islam. Pourquoi on a été en Algérie? Oh, les sales colonialistes, et je sais pas quoi. Pourquoi on a été en Algérie? Parce qu'on en avait marre que les pirates d'Alger viennent sur nos propres côtes enlever nos enfants. Attendez voir, mon saint patron, il allait de Sète à Narbonne, au bord de la côte, il s'est fait enlever par des pirates. Ils ont essayé de se défendre ou quoi, mais les autres étaient en surnom. Il a été vendu comme esclave à Alger, Saint-Vincent de Paul. Ça, pourquoi il y a des pays, la Maure et l'Estorel en France? Parce que le sud de la France a été occupé par l'islam pendant tout un temps. Il a fallu des Charlemagne et tout ça pour les repousser. Pourquoi il y a une bataille à Poitiers? Ça veut dire qu'ils sont venus jusque-là avant. Mais on a perdu le fil, là. On ne connaît plus notre histoire. On est complètement fous. Oh, attention, ils risquent de nous mettre le truc. Et alors, espèce de femmelette, vous ne pouvez pas prendre les armes, vous aussi, et si sort le couteau, eh ben, vous sortez le revolver ou vous lui sautez dessus, il en touchera peut-être un et le deuxième, ça sera fini. On entend dire aussi des gars comme ça dans le métro, avec un couteau, ils braquent une fille devant tout le monde. Il la couche là devant tout le monde dans le métro. Personne bouge. Punaise, c'est des Francs, ça. Mais c'est dégoûtant. Voilà la lâcheté. Pourquoi? Ben évidemment, quand on ne croit plus au ciel, quand il n'y a plus que l'horizon terrestre. Oh, alors, pour vous que ça dure, quand même, comme disait Laetitia Bonaparte, n'est-ce pas? Pour vous que ça dure, tant que j'ai mon petit confort, j'ai de quoi manger, j'ai de quoi me chauffer l'hiver, tout ça. Pour vous que ça dure. Alors s'ils me mettent le truc, ben, je veux pas me mettre à genoux, hein, devant une croix, ça je veux pas, hein. Bah attention, le jour où... Ah ben là, vous lèverez les fesses en l'air, puis vous mettrez le front en terre. Hein, vous serez devenus des esclaves. Qu'est-ce que ça veut dire les Francs? Ça veut dire les libres. C'est ça votre liberté maçonnique? Bah! C'est de l'esclavage, ça! Et quand on n'est pas librement donné au Christ, on tombe sous l'esclavage du diable. Il n'y a rien à faire. Ou de ses suppôts. Voilà ce qui nous attend. Et voilà. Car nous avons péché et nous avons commis l'iniquité en nous écartant et retirant de vous. Et nous avons failli en toutes choses et nous n'avons point écouté vos préceptes. On les écoute encore, les commandements de Dieu, tu ne tueras pas, etc. Ah, attention, il ne faut pas. Plus de peine de mort, hein, contre les assassins. Le bon sens populaire disait avant, messieurs les assassins, vous voulez plus de la peine de mort. Commencez les premiers. Arrêtez de tuer, puis vous ne serez plus exécutés. Et on le fait sur des petits innocents qui ne peuvent pas se défendre dans le sein de leur mère. Mais on est complètement tordus. Et la peine de mort, qu'est-ce qu'il a institué? Vous prenez au chapitre 9 de la Genèse, celui qui versera le sang humain, son sang sera versé en réparation. C'est Dieu, c'est le même qui a dit tu ne tueras pas. C'est-à-dire tu ne feras pas d'homicide, par contre, la peine de l'homicide, c'est la peine de mort. En nous écartant et retirant de vous, bon... Nous n'avons pas écouté vos préceptes, vos commandements, nous non plus malheureusement, on ne les a pas observés. Nous n'avons point agi comme vous le commandiez, de sorte que du bien en est résulté pour nous. Ben oui, toutes les bénédictions de nos pères, pourquoi il y avait la prospérité matérielle aussi ou quoi? Il n'y avait pas besoin de gendarmes ou d'inspection du je ne sais trop quoi, les gens étaient honnêtes, ils faisaient honnêtement leur travail, ils allaient... Il n'y avait pas besoin d'avoir des gendarmes pour amener les gens au travail, etc. Je reprends un autre exemple en passant. Ils ont volé les biens de l'Église. Et après, évidemment, donc l'Église de France était devenue très pauvre. Dans un sens, c'était pas une mauvaise chose. Alors, ils avaient trouvé un moyen pour essayer de brider le clergé, c'était de le payer. Et on reprochait à Napoléon, pourquoi vous payez les prêtres? D'abord, ils ne faisaient que rendre ce qu'ils avaient pris. Mais encore une parole de bon sens. Et là, il était cynique, hein, parce que c'était pour asseoir son pouvoir. En payant un prêtre, je fais l'économie de 10 gendarmes. Ben oui, parce que la discipline intérieure, c'est bien plus efficace que la discipline extérieure, avec menace extérieure, c'est évident. Donc, les commandements de Dieu, c'est quoi? Mon petit enfant, mets pas ta main sur le feu, tu vas te brûler. Et si tu avances ta main, je te donne une tape. C'est pourquoi? C'est pour le mal de l'enfant que je vais lui donner une tape? Ben non, c'est pour pas qu'il se brûle. C'est ça les commandements de Dieu. Dieu nous aide, il nous dit, si vous faites ça, vous allez faire votre propre malheur. Si vous n'êtes pas continent dans la nourriture, ben vous allez être malade, etc. Et si on s'en écarte, on se croit malin ou quoi, eh ben on a les conséquences après à porter. Donc nous n'avons point agi comme vous le commandiez, de sorte que du bien en est résulté pour nous. Donc tout ça c'est le début de la prière, et là c'est le passage qu'on a lu dans l'intro 8. Par conséquent, tout ce que vous avez amené sur nous et l'ensemble de ce que vous avez fait à notre encontre, c'est par un jugement véridique que vous l'avez fait. Vous nous avez livrés aux mains de nos ennemis iniques. Ah ! Déjà, nous, on est livrés aux mains des maçons, des antichrétiens. Mais bientôt, ça sera aux islamistes, si on ne se réveille pas. Par contre, si on boute les uns dehors, il faudra bouter les forces occultes qui nous ont amenés là en 200 ans. Vous nous avez livrés aux mains de nos ennemis iniques, très mauvais prévaricateurs, à un chef injuste. Là, c'était Nabucodonosor. Et le plus mauvais de toute la terre. Et alors, il continue. Aussi, à présent... Nous ne pouvons plus ouvrir la bouche. Ah, oh, vous avez la liberté religieuse, hein? Ah oui, c'était décrété, premier article de la Constitution soviétique. Vous avez la liberté religieuse, hein. Mais attention, si vous ne soutenez pas le Parti communiste, etc., ou que vous avez le malheur de parler contre, alors vous êtes des chiens de l'impérialisme occidental. Vous êtes des agents de l'impérialisme. Donc on vous condamne soi-disant pas pour un motif religieux, on vous condamne pour un motif politique. Parce que maintenant, chez nous, en URSS, il y a la liberté religieuse, hein. C'est pour ça qu'en une nuit, en Hongrie, hop, la police est descendue dans tous les couvents, ils ont enlevé tous les moines en une seule nuit. Bah, il y avait la liberté religieuse, c'est marqué au article 1 de la Constitution. Mais vous avez la liberté religieuse, là. Mais on a le droit de dire que le péché contre nature, c'est Sodome et Gomorre. Attention, hein, vous risquez un procès, là, hein. Les guépiers, je sais pas quoi, là, hein. L'hypocrisie de cette société. L'hypocrisie. Vous nous avez livrés aux mains de nos ennemis uniques très mauvais. Aussi à présent, ne pouvons-nous plus ouvrir la bouche? Comme les chrétiens en terre d'islam. Tu la boucles, sinon, tu peux encore, si tu donnes un impôt, etc., 10 000, tu peux encore pratiquer en cachette, parce que tu nous es utile. On a besoin d'avoir des esclaves qui fassent le travail pour nous, hein. Mais la boucle, hein, attention, hein. Nous ne pouvons plus ouvrir la bouche et nous sommes un objet de confusion et d'opprobre avec vos serviteurs et tous ceux qui vous honorent. De qui on se moque partout, si ce n'est des chrétiens et des catholiques? Alors on leur met des étiquettes. Ce catholique égal intégriste, intégriste égal salafiste, intégriste égal nazi, etc. Même si, qu'est-ce qui a lutté contre le nazisme publiquement à ce moment-là? Il y a eu je ne sais combien de religieux et de prêtres en camp de concentration. Quel est le seul chef d'État qui a parlé contre le nazisme quand il était en force? Il s'appelle Pie XI, Mitbrederngersorg. C'est le seul qui a eu le courage de le faire pendant que l'autre était au summum de sa force. Et après on nous dit, Pie XII s'est tu. Mais il se moque de qui? C'est le futur Pie XII qui a rédigé l'encyclique, parce qu'il était non-savant en Allemagne, et que donc il savait quel était ce parti et qu'est-ce qu'il soutenait. C'est-à-dire une espèce de néopaganisme, etc. Dans la Tulée, les loges de la SS, etc., il y avait des loges maçonniques là-dedans. Donc on nous fait croire le contraire de ce qui est là encore. Ben on met des étiquettes et puis hop, ça y est. Et puis comme les gens, ben, le relâchement des mœurs, etc., ça les arrange comme un enfant à qui vous disait, au lieu d'aller jouer, va faire ton travail, ben, il préfère aller jouer quand même. C'est des gens de plus en plus infantilisés et à courte vue. Et alors, ils vont vers leur propre malheur, les pauvres. Donc, on est couvert d'opprobre. Et attendez, la comparaison, le parallèle, c'est pas fini le parallèle, hein. Alors, il y a d'abord la prière. Daignez, nous vous en prions. Il faut s'en inspirer de cette prière. Daignez, nous vous en prions. Ne point nous livrer pour toujours à cause de votre nom et ne point redire à rien votre alliance ni retirer de nous votre miséricorde. Ayez pitié de votre fille aînée. Ayez pitié de la mère romaine. Sauvez Rome et la France au nom du Sacré-Cœur. Sauvez Rome et la France au nom du Sacré-Cœur. Voilà ce que chantaient nos pères quand ils envoyaient les oies pontificaux pour défendre le pape. Et le Saint-Curé d'Ars disait, les meilleurs défenseurs de la France, c'est ceux qui sont à la défense du pape. Et la suite lui a donné raison, puisque quand on les a renvoyés en France, on a eu quand même la défaite et on a perdu l'Alsace-Lorraine qui était le correspondant au point de vue des kilomètres carrés du territoire qui était perdu par le pape en Italie, qui assurait son indépendance et l'indépendance de l'Église avec. Car Seigneur, c'est continue sa prière, nous avons été diminués plus que toutes les nations. Et nous sommes humiliés de par toute la terre aujourd'hui en raison de nos péchés. C'est pas fini, mes enfants. Il n'y a plus parmi nous ni roi, ni prince, ni chef, ni prophète, ni sacrifice, ni offrande, ni encens. Ouh ! C'est pas vrai, mais ça ressemble comme de gouttes d'eau. On a encore un roi, nous, chez nous. Terminé. Ah, je me fais passer, moi, le roi très chrétien, quoi, mais je vais faire la leçon au pape, etc. Très bien, mon pauvre, hein. Ça va pas durer longtemps. Surtout si les enfants à Coquine, il paraît qu'il y avait une loge des trois frères royaux. Vous rendez compte, loge des trois frères? Ah, ils ne savaient pas ce que c'était, ils ne savaient pas qu'ils mettaient le doigt à l'endroit où on allait leur couper la tête, mais... Plus de roi, plus de prince, plus de chef, plus de prophète. Qu'est-ce que c'est qu'un prophète? C'est quelqu'un qui parle avec autorité au nom de Dieu. Quels sont les prophètes du Nouveau Testament? Pourquoi il n'y a plus de prophètes dans le Nouveau Testament? Parce que ceux qui parlent au nom de Dieu, ce sont les apôtres et leurs successeurs. Ce sont le pape et les évêques et ceux qui sont missionnés par eux. Nous n'avons plus ni roi, ni prophète, ni sacrifice. Ils ont cassé le Saint-Sacrifice de la Messe, ils en ont fait un repas, une scène protestante. Ils ont changé la substance et ils savaient ce qu'ils faisaient. Puis c'était fait exprès. Le principal ennemi, Jean-Baptiste Montigny, savait très bien ce qu'il faisait. Et normalement, c'est avec ça, il n'y a plus tout ça afin que nous puissions obtenir votre miséricorde. Alors, inspirons-nous de ça, puisqu'on est dans cette situation. Prenons à notre compte cette prière. Daignez cependant agréer l'offrande de notre âme contrite. Contrite, la contrition, ça veut dire quoi? On est comme réduit en poudre par la douleur du péché qu'on a commis et de notre esprit humilié. Si on n'a pas le sens de l'humiliation avec ce qu'on vit, c'est que on n'aime pas ni l'Église ni la France. Et permettre que notre sacrifice, car pas de sacrifice, quel sacrifice, vienne aujourd'hui en votre présence en sorte de vous plaire. En raison du fait que ceux qui se confient en vous ne sauraient être confondus. Attention, on n'a pas de roi temporel, on n'a pas de prophète humain, mais on a Dieu, on a le roi des rois qu'on va fêter dimanche prochain. Celui qui parle au nom de Dieu, mais c'est le Christ. Les autres sont que ses représentants et lui, il est toujours là. Et personne ne peut nous l'enlever. Aujourd'hui, en votre présence, en sorte de vous plaire, en raison du fait que ceux qui se confient à vous ne sauraient être confondus. Aussi, vous suivons-nous à présent de tout notre cœur. Nous vous craignons et cherchons votre face. Et Dieu nous a... Faciem tuam domine requiram, dit le psaume, je recherche votre face. Et Sainte Thérèse, c'était Sainte Thérèse de l'enfant Jésus et de la Sainte Face. Et on avait la dévotion à la Sainte Face avec le saint homme de Tours. Et qu'est-ce que ça préparait? On a le Saint-Suaire, on a la photo de notre Seigneur, on a la photo de notre Seigneur. C'est quand même une belle consolation. Sainte Thérèse, qu'est-ce qu'elle aurait aimé avoir cette photo? Vous vous rendez compte, c'est le visage de notre Seigneur sur le suaire. C'était un négatif quand on a pris la photo. Oh, ça a fait un positif, on a la photo. Ah, c'est notre Seigneur dans le tombeau, mort, donc on ne voit pas son regard, etc. Mais on a la photo de notre Seigneur. C'est incroyable, c'est extraordinaire. Quelle consolation. Et bien sûr, c'est rien en pensant qu'il est vivant. Il est au ciel, il nous écoute là en ce moment, il est parmi nous. Là où vous aurez deux ou trois réunis en mon nom, je serai parmi vous. Aussi, vous suivons-nous à présent de tout notre cœur, nous vous craignons, cherchons votre face. daignez ne point nous renvoyer confus, mais exercez sur nous votre mansuétude, votre douceur donc, et la grandeur de votre miséricorde. Et daignez nous délivrer par vos merveilles, et donnez gloire à votre nom, Seigneur, de sorte que soient confondus tous ceux qui font souffrir vos serviteurs, qu'ils soient confondus par votre toute-puissance, et que leur force soit réduite en poudre, afin qu'ils sachent que vous seul êtes le Seigneur, Dieu et glorieux dans tout l'univers. Voilà la magnifique prière donc, du prophète Daniel dans la souffrance de la captivité de Babylone. Malheureusement, j'ai encore été très long. Je vais dire juste un mot qui va être un complément sur l'évangile. Le chef juif qui demande à notre Seigneur de venir dans sa maison parce que son fils est en train de mourir. Donc il a foi que notre Seigneur va pouvoir le guérir. Mais dépêchez-vous avant qu'il soit mort. Donc ça veut dire qu'il ne croit pas que s'il est mort, notre Seigneur puisse le ressusciter. On ne peut pas lui en vouloir. Hein. Et est-ce qu'on aurait une foi comme ça avec un enfant de chez nous? Pas sûr. Hein. Même avec tout ce qu'on a vu nous depuis 20 siècles. Et puis Saint Grégoire dit, pourquoi notre Seigneur dit après, alors si vous ne voyez pas des signes et des prodiges, vous ne croyez pas? Mais alors le Saint-Pape, il nous dit, mais enfin, s'il ne croyait pas, il n'aurait pas demandé à notre Seigneur de venir. Donc il croit bien qu'il va pouvoir guérir son fils. Oui, mais déjà pas s'il est mort. Donc il réduit déjà sa puissance. Et surtout, il dit, il croit qu'il a besoin d'aller là-bas physiquement, là, sur place, de se montrer visiblement pour produire son effet. Donc sa foi est imparfaite, nous dit le Pape. Qu'est-ce que ça veut dire? On nous dit que, eh bien, notre Seigneur est là, il nous écoute, il est tout puissant. Normalement, il se sert des canaux ordinaires de la grâce, des prophètes humains, des rois humains, etc. Mais lui, ils sont que ses représentants et lui, il est là. Et il n'abandonne jamais le premier, s'il n'est d'abord abandonné lui-même. Et donc, ceux qui ne l'abandonnent pas, lui, il ne les abandonnera pas non plus. Et ceux qui l'ont abandonné, s'il tombe à genoux, bon, mon Dieu, maintenant je me rends compte de ma folie. Et si le peuple de France entier, si la chrétienté entière tombait à genoux maintenant, en disant nous avons fait des folies, ça serait encore possible de se reprendre. Mais alors le pire, c'est que, quels sont les prêtres et les évêques qui seraient là pour nous absoudre maintenant? Quand la pourriture est arrivée dans le clergé jusqu'au plus haut, comment voulez-vous qu'on s'en sorte? Il faut vraiment des miracles incroyables. Et c'est pas pour rien que l'Écriture annonce qu'il y aura deux témoins, que les deux témoins Enoch et Élie vont être... Pourquoi Dieu va envoyer deux prophètes à la fin, quand l'abomination est dans le lieu saint? Mais ça veut dire qu'il n'y aura plus personne pour parler avec autorité au nom de Dieu. Sinon, si on a le pape, pourquoi... Et si on a les évêques, pourquoi on a besoin d'Enoch et d'Élie? C'est annoncé dans les Écritures, tout ça. On a la foi ou on l'a pas. Et alors, notre Seigneur le récompense de sa foi. Et il dit, va, ton fils vit. Alors, il a déjà augmenté dans sa foi. Il a confiance dans ce que notre Seigneur vient de lui dire. Ah, je ne savais pas qu'il pouvait faire à distance comme ça et quoi. Mais bon, s'il me le dit... Alors il y va, il n'est encore pas vraiment sûr. Mais il y va quand même. Les serviteurs, ça y est, il est guéri. Le danger noir est passé. Et on voit bien qu'il n'est pas encore bien sûr. C'est arrivé à quelle heure? C'est à la septième heure. Septième heure, dans l'heure romaine, la sixième c'est midi. Hein. Donc septième heure, ça faisait une heure de l'après-midi pour nous. Donc début d'après-midi. Donc normalement, c'est pas au moment de la plus haute chaleur que le malade se sent mieux, généralement. Hein. Mais Dieu, la puissance de Dieu, c'est la puissance de Dieu. Et alors, mais c'est justement à cette heure-là qu'il a dit, va, ton fils vit. Et ça nous montre la puissance de Dieu, que même s'il n'y a pas des éléments corporels sensibles comme sont les sacrements, comme sont les canaux ordinaires de la grâce, même s'il n'y a pas de roi temporel pour nous protéger, même s'il n'y a pas de prophète pour parler avec autorité en son nom, dans cette époque de grande apostasie, de désolation générale, lui, il est là. Lui, il est le roi des rois. Lui, il est le grand prophète qui a été annoncé par Moïse. Lui, il est Dieu Tout-Puissant. Il est en tout lieu. Eh bien, terminons, offrons notre patience d'avoir supporté un si long sermon et finissons en faisant nôtre ces paroles du prophète Daniel. Aussi, vous suivons-nous à présent de tout notre cœur. Nous vous craignons et cherchons votre face. Daignez ne point nous renvoyer confus, c'est-à-dire honteux, c'est-à-dire déçus, mais exercez sur nous votre mansuétude. Ne nous rejetez pas, un père, ça ne rejette pas ses enfants quand il demande pardon. Exercez sur nous votre mansuétude et la grandeur de votre miséricorde et daignez nous délivrer par vos merveilles. Oui, envoyez le secours que vous avez annoncé, les deux témoins. Venez à notre secours par des interventions miraculeuses et donnez gloire à votre nom, Seigneur, de sorte que soient confondus tous ceux qui font souffrir vos serviteurs, qu'ils soient confondus par votre toute-puissance et que leur force soit réduite en poudre, afin qu'ils sachent que vous seul êtes le Seigneur Dieu et glorieux dans tout l'univers, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.